Avant de lire la parole du Seigneur, je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que nous avons déjà vécu ensemble. Nous te bénissons pour ton appel à venir glorifier ton nom, écouter ta parole, et parce que tu nous appelles à le faire ensemble. Merci Seigneur de nous unir en ton nom. Merci de nous rappeler ce qui est important, ce qui est prioritaire. Merci Seigneur de diriger nos regards et de les centrer sur Jésus-Christ, quoi qu'il arrive dans nos vies. Nous te prions que ton Saint-Esprit nous éclaire maintenant et permette que cette parole que tu veux nous adresser, eh bien, qu'elle puisse pénétrer au plus profond de notre cœur et qu'elle puisse réellement créer un changement qui vient de toi et qui corresponde à ta volonté, un changement qui glorifie ton nom aussi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, je vous propose de lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Voilà. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Nous avons tous sans doute l'apôtre Paul en mémoire comme le plus grand missionnaire de tous les temps, lui qui a apporté l'évangile de Jésus-Christ en Asie mineure et en Europe, et notamment en Grèce, dans la ville de Corinthe, où il fit un premier séjour d'environ un an et demi. S'il ne nous le disait pas lui-même dans ce passage de sa lettre, nous ne pourrions certainement pas l'imaginer prêchant aux Corinthiens dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Je ne sais pas vous, mais c'est rarement comme ça qu'on imagine l'apôtre Paul. Cet aveu nous le rend sympathique d'un côté, mais nous le rend surtout proche de nous, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs se reconnaissent, je crois, dans ces difficultés rencontrées par l'apôtre. Alors comment se fait-il que l'annonce de la parole de Dieu puisse mettre un prédicateur dans une telle situation de faiblesse et de souffrance ? Nous pensons parfois, s'il est vraiment convaincu de l'utilité et de la vérité de son message, il doit lui être facile de l'annoncer avec joie et non pas avec crainte et tremblement. Mais l'apôtre Paul ne manquait certainement pas de conviction personnelle. Sa rencontre sur le chemin de Damas avec Jésus-Christ ressuscité a entraîné dans sa vie un changement radical, une conversion irréversible et une vie nouvelle, entièrement fidèle à Jésus-Christ. Les difficultés viennent en vérité du fait que les attentes de ceux qui l'écoutent, les attentes des Corinthiens, sont totalement différentes du témoignage de Dieu que Paul doit leur annoncer. Voilà ce qui crée la difficulté. J'ai jugé bon, écrit-il, de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le problème, c'est que les Corinthiens, eux, préféraient des discours logiques et des démonstrations intelligentes sur Dieu, ou sur la supériorité de l'enseignement de Jésus. Que pouvait bien leur apporter la prédication de la croix, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs? Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On peut rencontrer parfois des gens qui accueillent volontiers l'exemple de vie du Christ, mais pas la prédication de la croix. Avant sa conversion sur le chemin de Damas, Paul était lui aussi scandalisé par le fait qu'un crucifié puisse être considéré par ses disciples comme Messie et Sauveur d'Israël. Entre autres parce que dans le livre du Deutéronome, il est écrit que celui qui est pendu au bois est maudit. Mais après sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ressuscité, Paul découvre dans la crucifixion une autre signification. Et comme il connaissait parfaitement l'Écriture, et entre autres les chants du serviteur de l'Éternel, il a certainement fait le rapprochement avec ce que disait le prophète Ésaïe au chapitre 53. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà la sagesse que Dieu lui a révélée par le Saint-Esprit. Comme il est écrit, à nous, Dieu nous l'a révélée par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et Martin Luther emboîtera le pas à l'apôtre Paul dans son explication du troisième article de la foi chrétienne où il dit « Je crois que je ne puis par ma raison et mes propres forces croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni venir à lui, mais que le Saint-Esprit m'a appelé par l'Évangile et m'a éclairé de ses dons. » Voilà un article puissant qui révèle bien d'où ça vient. C'est pas nous, c'est pas notre mérite. C'est pas nous qui avons tout d'un coup tout compris. En annonçant Jésus-Christ crucifié aux Corinthiens, Paul les remet tous en question, parce qu'ils se croyaient arrivés à la perfection par une sorte de syncrétisme religieux et philosophique que l'on appelait la gnose ou la connaissance. Là aussi, on n'a pas tellement évolué, hein. On retrouve quelque chose de semblable dans le New Age, mais aussi dans l'un ou l'autre mouvement prétendant s'inspirer parfois même de l'enseignement de Jésus, comme d'une doctrine révolutionnaire pour refaire le monde ici. En réalité, toutes ces philosophies ou ces idéologies qui circulent pensent pouvoir se passer de Dieu et décider elles-mêmes ce qui est bien ou mal. Et en fait, on ne revient qu'au malheureux point de départ qui s'appelle la chute ou le péché originel. Vouloir faire sans Dieu. Quand Paul nous dit que Jésus est mort sur la croix pour nous, peut-être la difficulté de cette phrase, c'est pour nous. Cela nous apprend que notre vie dépend de Jésus. Et cela nous oblige à réfléchir sur notre propre situation, sur nos illusions et sur nos rapports avec Dieu. Et ces questions, il faut bien le dire, ne sont pas toujours rassurantes ni même agréables à se poser, en tout cas dans un premier temps. Alors Paul écrit aux Corinthiens et dès le début de sa lettre, il leur rappelle quelque chose d'important. Sa prédication, son message, son discours sur Dieu ne consiste pas à présenter ou à parler d'un Dieu puissant sur la base d'une argumentation et d'une sagesse puissante. Et pourtant, nous aurions envie qu'il en soit ainsi, parce que c'est tout de même de Dieu qu'il s'agit. Aussi, lorsque nous voulons parler de Dieu autour de nous, en famille, à des amis, n'importe où, en fin de compte, nous sommes parfois tentés de présenter Dieu sur la base d'une argumentation puissante, irréprochable, et sur la base d'une sagesse qui dépasse toutes les autres, au point que tous autour de nous s'inclinent devant notre sagesse, quand même un peu, et aussi devant Dieu. Alors à ce point, il faut se rappeler que Corinthe est en Grèce, et en Grèce à l'époque de Paul. La sagesse, c'est très important, c'est primordial. Ça nous parle moins à nous aujourd'hui peut-être. Hein ? Mais à cette époque, il y a des cercles d'initiation, c'est-à-dire des maîtres réputés pour leur sagesse, qui sont groupés, qui attirent autour d'eux des gens. La sagesse. Voilà, c'est difficile de faire court avec ce terme clé de la civilisation grecque. L'exploration du savoir, la formation de l'intelligence, la recherche éthique d'une vie bonne, tout cela relève de la sagesse, mais ça peut aussi mener à la survalorisation de l'intelligence humaine, au détriment de la faculté d'écouter les autres, mais surtout Dieu. Et l'argumentation de Paul sera théologique. Il va présenter la sagesse de Dieu, pas sa sagesse à lui. Il va présenter le fait que cette sagesse de Dieu, elle est accessible seulement par la révélation. Et cette révélation, c'est sa volonté de salut en Jésus-Christ. La sagesse de Dieu, dit Paul, exprime sa volonté de salut pour le monde. Et elle est personnifiée dans les écrits de sagesse, notamment dans les proverbes. La sagesse est présentée comme une personne vivante. Dans la tradition des pharisiens, la sagesse est identifiée à la loi ou à la Torah, avec tout ce qu'elle apporte de porteur de vie à ceux qui l'observent. Mais la pensée grecque, elle a poussé beaucoup plus loin la réflexion. Elle a fait de la sagesse une entité médiatrice entre Dieu et les hommes. C'est le principe des philosophes. Il faut finalement atteindre la sagesse pour avoir touché Dieu, quel qu'il soit, parce qu'ils n'en savent rien, qu'est-ce qu'il est. Et c'est un peu la même idée dans le bouddhisme. Alors, à l'intérieur même de cette pensée et de cette culture grecque, et avec les propres termes qui sont les leurs, Paul va introduire la façon de faire tout autre de Dieu, en disant le médiateur du salut, c'est Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ le crucifié. Cette sagesse-là n'est accessible que par la révélation qui fait irruption dans notre histoire. Ce que Dieu cache et révèle n'est pas accessible à la sagesse humaine, même pour le plus sage des hommes. Mais ce sont des moments de l'histoire du salut dont la première génération de chrétiens vivent le aujourd'hui voulu par Dieu. Alors on voit bien que ce texte comprend des mots du vocabulaire des religions à mystère un peu. Des mots très en vogue à cette époque et aussi à Corinthe, je crois très en vogue encore à notre époque. Ces mystères qui fonctionnaient alors par des rites d'initiation, qui incluaient aussi des états d'extase, qui répondaient à la recherche répandue à l'époque d'un sauveur du monde, mais voilà, d'un sauveur par la raison. Paul ne développe pas plus loin son clin d'œil. Mais ce qui est sûr, c'est que ce passage déploie une multitude de mots-clés de la tradition et de la culture ambiante de Paul et du monde grec. Et ça contient un concentré des convictions et des pratiques répandues de l'époque. On a sagesse, puissance, mystère, caché, révélé, discours, prince de ce monde. Et on voit là la façon intelligente de faire de Paul. Il utilise le vocabulaire que les autres comprennent, mais il les réinterprète dans le sens du Christ. Et du Christ qui nous appelle à sa suite. Alors, une remarque en passant, c'est qu'à la différence de beaucoup d'expressions de notre actualité, surtout politique, les mots-clés populaires utilisés par Paul ne véhiculent ni la haine, ni la violence, ni l'ignorance, ni l'angoisse. Mais ils pointent tous vers l'espérance. La discussion, voire la polémique autour de la sagesse, a quelque chose de très encourageant, je crois, dans ces temps où la bêtise délibérée, les appels au complot, la simplification dangereuse font recette partout autour de nous. Et là, on en trouve dans toutes les sphères, en haut, en bas. Le christianisme ne se positionne pas contre tout. Il se développe au milieu d'un foisonnement d'idées. On le voit bien ici. Mais comme le dit le texte de Thessaloniciens, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça ne veut pas dire buvez, digérez, manger tout ce qui arrive sans réfléchir. Examinez. Et examiner, ça veut dire à la lumière de la parole de Dieu. Je vous assure que ça fait déjà un sacré tri. Revenons aux sages de l'époque et aux philosophes, aux penseurs. Une certaine connaissance du monde à cette époque leur intelligence, leur comportement et une certaine faculté qu'ils avaient, une facilité à parler, faisait que l'on disait de ces gens qu'ils étaient remplis de sagesse. Leur argumentation en général faisait mouche, touchait les esprits et les cœurs, et ce sont des gens qui arrivaient à persuader et à convaincre. Et du coup, on pensait qu'ils détenaient la vérité. Et du coup, on les suivait et on les imitait. Voilà l'ambiance générale dans laquelle Paul a débarqué quand il arrive à Corinthe. Et c'est dans ce contexte-là, je crois que c'est important de le prendre en compte, que Paul arrive avec son histoire, redites-moi l'histoire, son histoire d'un Dieu devenu homme en son fils Jésus, qui de plus est mort sur une croix, avant de ressusciter 3 jours après. Et non seulement c'est une histoire incroyable, voire inacceptable. Alors nous, on est habitués, hein, ça fait 2000 ans qu'on le dit maintenant et qu'on l'entend. Mais à cette époque, ce n'est pas le cas. Et Paul n'a pas à ce moment-là ce pouvoir de l'éloquence, de la parole, ni la capacité de persuader, de convaincre qu'ont les maîtres grecs. Alors je dis, il l'a pas, c'est surtout qu'il ne veut pas l'avoir à ce moment-là. Ce n'est pas qu'il n'en est pas capable, je crois. Paul fait remarquer qu'il tient à ne pas subjuguer ses auditeurs par le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, parce qu'il ne veut pas fixer ce qu'il enseigne sur sa personne, mais il veut les guider vers le Christ. Il est en train finalement d'ouvrir le champ à l'action de Dieu. Et pourtant, on le voit bien dans les versets 6 à 9, Paul est convaincu que la relation à Dieu apporte la sagesse. Dans le sens que cette relation à Dieu nous aide à vivre, qu'elle nous apporte, qu'elle nous donne les meilleurs éléments, les meilleures indications pour savoir comment bien vivre notre vie. Ce n'est pas tout à fait la même sagesse. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'entre la situation de Paul à l'époque et nous aujourd'hui, il y a beaucoup de choses identiques. On l'a dit déjà, hein, mais nous sommes à une époque où on nous bombarde de messages qui se prétendent être pleins de sagesse et d'intelligence, et fondé sur de grandes connaissances, c'est ce qu'on veut nous faire croire en tout cas. Il suffit de regarder la publicité, hein, certaines émissions. Et en fait, on utilise tous les moyens connus et les plus sophistiqués pour nous persuader, pour nous convaincre. Alors de plusieurs choses, hein, ça peut être d'acheter tel produit, d'aller à tel endroit en vacances, de suivre telle idée à la mode ou telle pensée, philosophie ou religion. Et si nous résistons, nous nous sentons quand même souvent petits et faibles avec notre histoire de Jésus. Parce que cette histoire n'est pas à la mode. Et on se retrouve dans la situation de Paul. Sans compter que bien souvent, nous ne savons pas vraiment comment en parler. Nous sommes maladroits, nous ne savons utiliser aucun des trucs à la mode pour convaincre. Et grande pourrait être du coup la tentation de vouloir devenir fort, puissant, pour convaincre, pour persuader rapidement, facilement, ceux qui nous entourent, au point que quelques mots suffisent pour qu'ils tombent à genoux et se mettent à adorer Dieu, ça serait génial. Ou au moins qu'ils viennent tous les dimanches nous rejoindre pour célébrer Dieu avec nous. Mais voilà, ce texte nous dit finalement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de connaître des trucs. On a besoin d'avoir une relation avec Dieu pour pouvoir en parler. Alors si on revient à Paul, quand il arrive à Corinthe, il est donc fatigué, seul, faible, par rapport à son message, à son discours, à son témoignage. Il dit de lui-même, « Devant vous, j'étais faible, j'avais peur, je tremblais. » Je tremblais. Mais dans la faiblesse, et là c'est vraiment la merveille, le miracle, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, Jésus cloué sur une croix, eh bien ce message va prendre, va toucher les esprits et les cœurs, au point que plusieurs vont commencer à croire et qu'une petite église va se constituer. Alors, je ne l'ai pas lu, c'est la suite. Hein. Et Paul s'écrit, « Ce n'est pas la sagesse humaine qui fait naître la foi dans les cœurs, c'est Dieu. » Et en même temps, Paul constate que ce qui touche les gens, ce que le Saint-Esprit fait mûrir, ce à quoi le Saint-Esprit s'accroche au point de provoquer la foi dans les cœurs, c'est la seule chose qu'il a voulu savoir au milieu d'eux, Jésus-Christ crucifié. Alors les paroles de la sagesse sont un attrait pour l'homme, ça c'est sûr, il faut en être conscient, et ce n'est pas forcément un mal en soi, mais ce que Paul veut déployer, ou veut laisser déployer, c'est l'action du Saint-Esprit qui glorifie la puissance de Dieu. Et ce faisant, il faut bien prendre conscience que celui qui est attiré par la sagesse de l'homme s'attache à cette sagesse-là, et donc à l'homme. Celui qui est attiré est touché par la puissance de Dieu et mis directement en rapport avec Dieu, parce qu'il sait à ce moment-là de qui il est enseigné. L'homme est capable d'apprendre toutes sortes de choses, hein. Encore une fois, ce n'est pas mauvais en soi. Mais si ces choses ne le mettent pas directement en rapport avec Dieu, bon, on va être intelligent, ça c'est bien déjà. Mais en tout cas, notre âme ne va pas gagner quoi que ce soit pour l'éternité. Voilà qui différencie l'intelligence de l'homme de la révélation que nous fait le Saint-Esprit. Les capacités de l'homme n'y sont pour rien. Le Saint-Esprit se fiche de notre niveau d'intelligence ou de connaissance ou d'étude. Les capacités de l'homme n'y sont pour rien. Et la conscience du plus grand pécheur est beaucoup plus rapprochée de ces choses que l'intelligence des sages, parce que cette révélation de Dieu entre en nous par la conscience. D'autres textes le disent, hein, le Saint-Esprit appelle à notre conscience. Ce qui fait que le chrétien ne peut pas prétexter son ignorance. Et là, des fois, hein, on dit « Oh non, mais moi, je ne sais pas trop. » Et en fait, ce texte, quelque part, est en train de nous dire « Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire que vous ne savez pas. » Paul était un pécheur ignorant, mais il était enseigné du Saint-Esprit et il pouvait comprendre des choses que ni le souverain sacrificateur, ni Gamaliel ne pouvaient comprendre. Et de la même façon, le chrétien le plus ignorant, qui est enseigné par le Saint-Esprit, est mis par lui en rapport avec Dieu. Et il est du coup bien plus intelligent dans les choses de Dieu que même le chrétien le plus savant, qui ne chercherait pas l'enseignement du Saint-Esprit. Ce n'est pas un appel à ne surtout pas s'instruire. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est un rappel que le Saint-Esprit nous enseigne de son côté des choses de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant de s'instruire des choses du monde. Mais il y a une priorité quand même d'être instruit par le Saint-Esprit. Et si on se borne à chercher la révélation de l'intelligence ou le rationalisme, eh bien on va rater des choses des profondeurs de Dieu. Mais si on est enseigné du Saint-Esprit, eh bien on aura une intelligence spirituelle que beaucoup n'auront pas. Paul dit « Au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. » Et ça, ce n'est pas un message, ce n'est pas un reportage qu'il présentait aux Corinthiens. Il leur parle d'une personne, Jésus-Christ, qui lui aussi a connu la faiblesse, la pauvreté, et qui de fait mieux que personne le comprend, lui, Paul, dans cette étape de sa vie. Et il leur dit, en fait, il leur montre combien sa relation vivante et quotidienne avec Jésus-Christ lui donne paix, courage, espérance. Voilà finalement le discours de Paul. C'est en vivant simplement notre relation à Dieu dans les moments de faiblesse qui sont les nôtres que nous témoignons, que nous disons le plus de choses, je crois, à propos de Jésus. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui nous reviennent comme ça. Hein. Telle personne, la façon dont elle a vécu cette épreuve, ça a été pour moi une révélation. Pourtant, la personne, parfois, n'a rien dit. Hein. C'est en vivant simplement notre relation à Dieu que nous permettons au Saint-Esprit de se saisir de ça pour faire naître la foi dans les cœurs d'autres gens. Je ne sais pas si on en a bien conscience. La simplicité et l'authenticité de la posture du chrétien, encore plus si ce chrétien est un témoin actif de Jésus-Christ, sont déterminés par l'événement décisif du salut, la croix, la résurrection de Jésus. Et cette simplicité, cette authenticité doit inspirer nos actes et nos paroles. Et pour ça, il nous faut quelque part renoncer au désir de focaliser les auditeurs sur l'orateur et il nous faut nous effacer au bénéfice de la parole de vie. Et parfois, encore une fois, on aimerait convaincre, hein, parce que parce qu'on veut défendre la gloire de Dieu, on veut défendre sa puissance, et c'est pas mauvais en soi, hein. Mais il faut pas qu'on se laisse arrêter quand on se fait rembarrer, finalement. Parce que l'esprit dépasse tout ça. Et si on vit une relation avec le Seigneur, on exprime beaucoup de choses que parfois on n'arrive pas à exprimer en voulant convaincre. Alors ce texte de l'apôtre Paul nous invite, comme beaucoup d'autres, à simplement, si je puis dire, je ne sais pas si c'est simple, simplement vivre avec Dieu une relation vivante et quotidienne. Et si on vit cette relation au cœur même de notre faiblesse, de nos difficultés, de nos souffrances, de notre pauvreté, ça déploie des trésors. Jésus, qui a été cloué sur la croix, sait sans doute mieux que personne ce que cela veut dire d'être abandonné, de souffrir, d'avoir mal. Et donc, mieux que personne, il peut nous comprendre et nous accompagner dans ces moments de notre vie. Et c'est alors que, sans même l'attendre réellement, comme l'apôtre Paul, il nous sera donné de voir que le Saint-Esprit s'est saisi de ce que nous vivons, ou disons, pour faire naître la foi dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Voilà le message transmis par l'apôtre Paul ce matin à travers cet épître aux Corinthiens. Voilà le message, je crois, que Dieu veut nous encourager à saisir pour notre témoignage et pour notre vie avec lui. Que le Seigneur nous y aide. Amen.